Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Présentation au Vatican de l'Instrumentum Laboris qui servira d'outil de travail en vue du prochain synode sur la famille organisé en octobre à la demande du pape François. Un document qui présente un panorama mondial de la famille aujourd'hui. Éclairage dans la première partie de ce magazine, vous entendrez notamment Mgr Forte, secrétaire spécial du synode. Nous nous attarderons ensuite sur le discours du pape aux membres de la ROACO qui viennent d'achever leur 87e assemblée plénière à Rome. Témoignage également dans cette édition d'une juriste après la condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger. Bienvenue dans ce magazine. L'Instrumentum Laboris de la 3e Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des Évêques, qui a pour thème les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l'évangélisation, a été présenté ce jeudi matin aux journalistes. Un document qui servira de base aux travaux du Synode sur la famille prévu du 5 au 19 octobre prochain au Vatican. Il a été élaboré à partir des réponses au questionnaire inédit sur la famille adressé aux conférences épiscopales dans le monde entier. Cet outil de travail de 80 pages est composé de trois parties, communiquer l'évangile de la famille aujourd'hui, la pastorale de la famille face aux nouveaux défis et l'ouverture à la vie et la responsabilité éducative. Il présente une vision mondiale de la famille contemporaine dans toute sa complexité que l'Église doit accompagner et soutenir, ce qui représente un véritable défi. Jean-Baptiste Cocagne.
Première constatation remontée dans les réponses au questionnaire, les catholiques ne connaissent pas suffisamment la définition biblique de la famille. Pour les diocèses, il devient urgent de trouver de nouveaux langages pour transmettre les enseignements de l'Église et aller à l'encontre de la privatisation de la famille et d'une culture dominante centrée autour de l'hédonisme et de l'épanouissement individuel dans laquelle les enfants peuvent être vus parfois comme un obstacle au bien-être personnel. La famille doit plutôt tendre à devenir une vraie église domestique où la transmission de la foi aux enfants est une responsabilité, un devoir lié au mariage. Avec l'occasion offerte par ce synode extraordinaire, l'Église veut montrer que l'on peut vivre la famille de façon épanouie, la fidélité, la responsabilité des parents envers la société et envers leurs propres enfants font écho à la fidélité et à la responsabilité de l'amour donné par Dieu. Sur la question des unions entre personnes de même sexe, toutes les conférences épiscopales se sont exprimées contre une redéfinition du mariage catholique, mais l'accent est mis sur une attitude miséricordieuse, sans jugement envers les personnes concernées. Certaines conférences épiscopales ont également demandé de la clémence et de l'indulgence envers les divorcés remariés. Enfin, l'Instrumentum Laboris ne cache pas le contre-témoignage qui existe au sein même de l'Église, avec les scandales sexuels ou encore la pédophilie, des comportements qui provoquent une perte importante de crédibilité morale de l'Église. S'il fallait résumer l'intention de ce document préparatoire, on pourrait dire que ce synode extraordinaire sur la famille est l'occasion pour l'Église de partager une réflexion éclairée par la foi sur une réalité vécue par beaucoup d'hommes et de femmes à travers le monde, plutôt que de dénoncer une doctrine que l'Église voudrait imposer aux sociétés.
Parmi les intervenants ce jeudi matin en salle de presse du Saint-Siège, le cardinal Lorenzo Baldisseri, secrétaire général du synode, le cardinal André XXIII, archevêque de Paris et président délégué, et Mgr Bruno Forte, archevêque de Chieti Vasto en Italie, secrétaire spécial du synode. On l'écoute.
Sans doute il y a une crise, surtout dans le monde occidental, une crise de la famille, mais il y a aussi un désir. Il y a une attente, surtout dans le cœur des jeunes. Et ça nous a impressionnés, parce que dans la même société occidentale où la crise est évidente, il y a le désir, l'espoir, l'attente d'un lien fidèle, d'une famille qui peut être un giron qui accueille, un monde vital qui aime.
Une des nouveautés, au-delà de la préparation au mariage pour ces jeunes justement, est-ce que ça pourrait être l'accompagnement même après le mariage ?
Ça est très important, parce que l'histoire d'amour n'est pas seulement l'histoire avant le mariage, mais ça, on peut redire aussi surtout après, parce que c'est le défi de la fidélité, le défi de la fécondité, le défi du quotidien qui est toujours le lieu de notre conversion et sanctification.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans les réponses des questionnaires envoyés ?
La fidélité à la réalité. On n'a pas fermé les yeux. Hein. Et ça nous aide beaucoup parce qu'une église qui écoute est une église qui aime.
Monseigneur Bruno Forte. À noter que le deuxième synode sur la famille aura lieu du 4 au 25 octobre 2015 sur le thème « Jésus-Christ révèle le mystère et la vocation de la famille ». Dans un tweet publié ce jeudi, le pape rappelle que la famille est un élément essentiel de tout développement humain et social durable. Interrogé par les journalistes dans l'avion qui le ramenait à Rome à l'issue de son voyage en Terre Sainte, le Saint-Père avait indiqué que le synode d'octobre serait avant tout consacré aux problèmes et aux richesses de la famille, regrettant que toute l'attention se porte sur la question de l'accès à la communion des personnes divorcées remariées. Le pape encourage les chrétiens du Moyen-Orient à cultiver la paix. Il recevait ce jeudi matin les participants à la 87e assemblée plénière de la ROACO, l'œuvre d'aide aux églises orientales. Le Saint-Père s'est attardé sur son récent voyage en Terre Sainte et sur l'invocation pour la paix qui s'est déroulée quelques jours après son retour au Vatican. Image forte du pape entouré de Bartholomé, de Mahmoud Abbas et de Shimon Peres. Olivier Bonnel.
L'olivier que j'ai planté en présence du patriarche de Constantinople et des présidents israéliens et palestiniens, évoque cette paix qui n'est sûre que si elle est cultivée par plusieurs mains, a souligné le pape. Ceux qui s'attachent à cultiver ne doivent pas oublier que la croissance dépend du vrai agriculteur qui est Dieu. La vraie paix, celle que le monde ne peut donner, c'est Jésus-Christ qui nous la donne. Ainsi, ajoute le Saint-Père, malgré les graves blessures qu'elle subit encore aujourd'hui, elle peut toujours ressurgir. Le pape François a alors remercié les membres de la ROACO pour leur collaboration à ce chantier de la paix par la charité, et il a salué les frères et sœurs d'Orient qui espèrent contre toute espérance, qui restent là où ils sont nés, là où a commencé à résonner l'évangile du Fils de Dieu fait homme. Qu'ils puissent toujours compter sur le soutien de l'Église universelle pour pouvoir, avec la puissance de l'amour, faire cesser le feu des armes, de la haine et de la vengeance. Leurs larmes et leurs peurs sont les nôtres, mais aussi leurs espérances, a déclaré le Saint-Père, tout en leur assurant une pleine solidarité qui devra être concrète et efficace, capable de stimuler la communauté internationale pour défendre les droits de chacun et des peuples. Et le pape de s'inquiéter tout particulièrement pour les chrétiens de Syrie et d'Irak, exprimant toute la proximité de l'Église catholique à toute la Terre Sainte au Proche-Orient et à l'Ukraine qui vit des heures particulièrement graves, ainsi qu'à la Roumanie, qui également était au centre des travaux.
Le pape demande aux membres de la ROACO de poursuivre leur œuvre d'assistance aux nations les plus touchées, en faveur des plus petits et des plus faibles, et notamment de continuer à aider les nombreux réfugiés et déplacés pour qu'ils retrouvent dignité et sécurité et puissent bénéficier du respect de leur identité et de leur liberté religieuse. Le Saint-Père s'est également adressé ce jeudi à tous les participants au cours organisé actuellement par l'école d'astrophysique de l'Observatoire Vatican, intitulé « Galaxies proches et lointaines, jeunes et anciennes ». Il est juste que tous les peuples aient accès à la recherche et à la formation scientifique. C'est un défi qui nous engage tous, a affirmé le pape devant de jeunes astronomes provenant de différents pays. Le Saint-Père les a encouragés à partager les connaissances acquises sur l'univers dans leur propre pays, soulignant que seule une très petite partie de la population mondiale avait accès à de telles connaissances qui ouvrent l'esprit et le cœur aux grandes interrogations que l'homme continue d'exprimer. D'où venons-nous et où allons-nous ? La recherche des réponses à ces questions nous prépare à la rencontre avec le Créateur. Cette initiative, a ajouté le pape, démontre que la science peut être utile et efficace dans la promotion de la paix et de la justice. Pour plus de précisions, rendez-vous sur notre site internet www.radiovaticana.va. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour son refus de reconnaître la filiation des enfants nés de mères porteuses à l'étranger, l'arrêt est tombé ce jeudi matin. La CEDH avait été saisie par deux couples de parents qui s'étaient vus refuser par la justice française la possibilité de transcrire à l'état civil français les actes de naissance de leurs enfants nés par GPA, gestation pour autrui, aux États-Unis. La Cour tacle donc la justice française, arguant du droit à l'identité des individus au nom des intérêts supérieurs de l'enfant. Quelles peuvent être les conséquences de cet arrêt? Peut-il influer à terme sur la législation française en la matière? Élément de réponse avec Aude Mirkovic, juriste porte-parole du collectif Juristes pour l'enfance et auteur de PMA-GPA, la controverse juridique aux éditions Teki.
La conséquence est que la Cour européenne des droits de l'homme prive la France du moyen de protéger les enfants de faire l'objet de ces pratiques. Parce que si la Cour de cassation française refuse de transcrire les actes étrangers sur les registres français, c'est avec un objectif qui est avant tout symbolique, qui est de refuser de cautionner, de valider la GPA, la gestation pour autrui, réalisée à l'étranger. Et la Cour européenne des droits de l'homme lui interdit désormais de le faire. Donc autrement dit, la justice française doit fermer les yeux en cas de recours à une gestation pour autrui à l'étranger. Et du coup, la justice française est privée de ce moyen qu'elle avait de dissuader les Français désirant recourir à ces pratiques, et bien de le faire. Parce que la prohibition de la gestation pour autrui a pour but de protéger tant les femmes gestatrices d'être utilisées comme des machines à fabriquer des enfants, que de protéger les enfants d'être commandés, fabriqués, facturés, livrés pour assurer que cette prohibition soit efficace et que donc la protection soit efficace. Il faut avoir des moyens de sanctionner le recours à la gestation pour autrui. Et là, la France en est privée.
Est-ce que cela veut dire que cet arrêt va contraindre la France à légiférer sur la GPA?
Non, la Cour européenne des droits de l'homme n'a pas le pouvoir de modifier les droits des États. La France n'a aucune obligation, du fait de cette décision, de légaliser la gestation pour autrui. Mais en revanche, du fait de cette condamnation, la France a l'obligation de valider, de cautionner, d'entériner les gestations pour autrui réalisées à l'étranger. Donc, comme si la dignité des femmes indiennes avait moins de valeur que la dignité des femmes françaises, et comme si le fait d'acheter un enfant n'était plus un problème dès lors qu'on ne le paye pas en euros, mais en dollars ou dans une autre monnaie. Donc la France est obligée seulement de valider les GPA réalisés à l'étranger. Mais c'est déjà très grave.
Alors la Cour européenne des droits de l'homme argue du droit d'identité des individus. Jugez-vous cet argument recevable?
Ce qui n'est pas recevable, c'est d'invoquer soi-disant l'intérêt de ces enfants pour valider les traitements qui leur ont été infligés. Parce que ça veut dire tout simplement qu'on peut se procurer un enfant dans n'importe quelle condition. Et ensuite, du moment que, une fois arrivé en France, on est gentil avec lui, on s'occupe bien de lui, on est des parents exemplaires, eh bien, on oubliera les conditions dans lesquelles il a été conçu, dans les conditions dans lesquelles il a été remis. Donc, ceux-là même qui ont fait subir à l'enfant la GPA invoquent ensuite l'intérêt de l'enfant pour régulariser la situation qu'ils ont eux-mêmes suscitée, qu'ils ont eux-mêmes créée. Donc, la Cour européenne des droits de l'homme se fonde sur l'intérêt de l'enfant, mais en réalité, elle dessert l'intérêt de l'enfant. C'est peut-être les droits de l'homme qu'elle promeut, mais c'est certainement pas les droits de l'enfant.
Il existe beaucoup d'enfants donc, qui sont nés de GPA à l'étranger et qui sont en France et qui ne bénéficient, on va dire, d'aucun statut, d'aucune reconnaissance. Que faire alors pour ces situations de fait?
Alors, tout d'abord, il est faux de dire que les enfants issus de GPA n'ont pas de statut. Ces enfants ont un statut, ils ont un état civil, ils ont une filiation, simplement qui découle du droit du pays de leur naissance. Et tout ce que fait la juriste française, c'est qu'elle refuse de fonder cet état civil en droit français. Donc il en résulte certes une contrainte qui est d'abord administrative, parce qu'à chaque fois qu'il faut justifier la filiation de ses enfants, au lieu de s'adresser à l'état civil français, il faut demander un extrait d'acte de naissance à l'autorité étrangère. Il faut ensuite produire cet acte de naissance qui a été traduit. Donc il en résulte effectivement une certaine gêne et aussi un certain malaise. Parce que lorsque des Français produisent des actes de naissance étrangers, il en résulte immédiatement une certaine suspicion, au moins un étonnement, qui fait que leur situation est un petit peu compliquée. Mais ces contraintes qui sont réelles, elles ne pèsent pas du tout sur les enfants, parce qu'on n'a encore jamais vu un enfant faire lui-même une demande de son acte de naissance. Ces contraintes pèsent sur les adultes qui se sont mis eux-mêmes délibérément dans cette situation. Et ces contraintes sont tout à fait mesurées par rapport à l'enjeu qui est de dissuader les personnes tentées de le faire de recourir à des gestations pour autrui à l'étranger.
Des propos recueillis par Manuela Affigi. « La justice française a validé mercredi le licenciement pour faute grave d'une femme portant le voile, employée dans une crèche associative et qui refusait de se conformer au règlement intérieur imposant au personnel le respect de la neutralité religieuse. La Cour de cassation a ainsi confirmé une décision de la Cour d'appel de Paris contre laquelle s'était pourvue la directrice adjointe de la crèche Babylou de Chanteloup-les-Vignes en banlieue parisienne. Son arrêt met un terme à près de 6 ans d'une procédure judiciaire qui avait suscité des débats houleux sur le respect de la laïcité et le droit à la liberté religieuse au travail. Une question délicate qui a fait l'objet d'une récente étude. L'Observatoire du fait religieux en entreprise a en effet publié il y a un mois son enquête annuelle avec l'Institut Randstad. Pour la 2e année consécutive, cette étude ausculte la pratique de la religion et les discussions autour de ces thèmes au sein des entreprises. L'éclairage de Lionel Honoré, professeur à Sciences Po Rennes et directeur de l'Observatoire.
Il y a un premier élément qui est important à noter dans cette étude, c'est que le fait religieux en entreprise existe. Ça concerne à peu près 80% des entreprises. Dans 75% des cas, c'est un fait religieux qui est presque invisible, au sens où il n'appelle aucune action de la part de l'entreprise, ça ne gêne absolument pas le fonctionnement de l'entreprise. Donc en fait, le premier résultat de l'étude, c'est de dire que le fait religieux, c'est finalement quelque chose d'assez banal au travail. Il y a un deuxième élément, c'est qu'on note une évolution, en tout cas en France, depuis un an. Les pratiquants, par exemple, ont bien fait remonter dans l'étude que depuis un an, avec notamment l'affaire Babylou en France, le mariage pour tous, etc., il y a davantage de crispation, aussi de curiosité de la part des gens qui ne sont pas pratiquants, qui vont interroger davantage les pratiquants sur leur pratique, sur leur foi, etc. On peut noter d'ailleurs que les gens ont plutôt une bonne image de la religion. Ça, c'est assez marquant dans l'étude. Ils considèrent que quelqu'un de pratiquant, au travail en tout cas, ça a plutôt un impact positif sur son comportement. Ça l'amène à être plus proche des autres, plus attentif aux autres, moins centré sur des valeurs de performance financière, etc. Les gens donnent une place à la religion qui est peut-être plus importante que ce qu'on pourrait imaginer. Les gens considèrent par exemple que la religion a son mot à dire sur les problèmes de société. Tant que le fait religieux reste personnel et relativement neutre, bah finalement il est bienvenu dans l'espace de travail.
Vous parlez du fait religieux comme un tout. Est-ce que pour autant il y a des spécificités suivant les religions et en particulier suivant la religion catholique ?
Le fait religieux en entreprise, en tout cas celui qui interroge le fonctionnement de l'entreprise, celui qui pose le plus de problèmes, on va dire, c'est le fait religieux musulman. Par rapport à la religion catholique, il y a un an, je vous aurais dit non, pas de spécificité du fait religieux catholique. Ils font très nettement remonter dans l'étude, ils ont ressenti de la tension, un peu de radicalisation dans le discours, parfois de la stigmatisation, parfois de la moquerie, au moment vraiment du mariage pour tous, il y a à peu près un an. Ce qu'on peut noter malgré tout, ce qu'ils font aussi remonter ces catholiques pratiquants dans l'étude, et ce que leurs collègues aussi font remonter par rapport à eux, c'est quand même une certaine approche du travail qui n'est pas tout à fait la même que les autres. Davantage centrée sur les personnes, sur le fait de faire attention à ses collègues, d'essayer de les mettre dans des situations d'efficacité et d'avoir des valeurs au travail qui soient centrées sur une performance uniquement technique ou uniquement financière.
Dans les conclusions de votre étude, il y a aussi le fait que les salariés demandent une neutralité de l'entreprise vis-à-vis de la religion.
Les salariés veulent, en tout cas ce qui ressort de l'étude, ils veulent une neutralité, mais pas une exclusion du fait religieux. Ils considèrent bien évidemment que les religions, par exemple, ont leur mot à dire dans l'espace public. Ils considèrent aussi bien évidemment qu'une personne, si elle est pratiquante, peut pratiquer. C'est-à-dire peut y compris prier, par exemple, pendant ses pauses, peut porter un signe ostentatoire, ou un signe visible, en tout cas, si ça ne gêne pas le travail, à condition que ce soit neutre, c'est-à-dire à condition qu'elle n'impose pas sa pratique aux autres, qu'il n'y ait pas de prosélytisme, qu'il n'y ait pas d'exclusion d'autres personnes, qu'elle n'impose pas les rites aux autres. Ben voilà, quand c'est neutre, quand ça ne s'impose pas ni à l'entreprise ni aux autres, la religion, pour les gens en tout cas, a tout à fait sa place dans l'espace de travail. Dans cette vision-là, la vision qu'ont les gens, la religion finalement fait partie des personnes. Elle les définit autant que leur couleur de peau, qu'une orientation sexuelle, que ce genre de choses. Ça renvoie à l'image qu'on a des autres, du monde, à comment on se définit par rapport aux autres et au monde. Et ça, ça se respecte autant qu'une autre variable personnelle. Et ça, je crois que les gens l'ont bien compris. En tout cas, c'est ce qui ressort de l'étude.
Vous nous avez dit en début d'interview que les cas qui posent problème sont minoritaires. Mais de quelle nature sont-ils ?
La majorité des entreprises sont confrontées à un fait religieux qu'elles arrivent à gérer. Mais il y a à peu près 12% des entreprises qui sont confrontées à de l'activisme religieux, qui vise à peser sur le vivre ensemble, à transformer le vivre ensemble pour lui faire prendre en compte des prescriptions religieuses. Ça va se traduire par du prosélytisme, par du refus de travailler avec des femmes, par l'exclusion des équipes, des gens qui ne sont pas des co-religionnaires, etc. Alors on va trouver derrière ça principalement de l'islam radical. Ça représente très peu de cas, mais les entreprises qui y sont confrontées sont dans des situations délicates.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. C'est ainsi que s'achève ce magazine. Merci de l'avoir suivi.